De retour à Allo Showbiz sur les ondes de CJSO 101.7 FM, de la belle visite aujourd'hui. Il y a Laure, mais moi je la connais sous le nom de Catherine.
Allô, allô.
Salut, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi.
C'est drôle, ça va très bien. C'est drôle parce que la semaine dernière, je recevais Marjolaine Moras,
oui,
qui travaille avec toi,
exact,
chez Torpille, où, avec qui je book presque le trois quarts des invités.
Certain,
je passe sur
certain
mes shows. Et je savais pas
ben
que
non
tu faisais de la musique.
J'ai décidé de faire ça incognito, lancer ce projet-là.
Pourquoi d'ailleurs?
Il y a beaucoup de Catherine en musique. Catherine Major, Catherine Durand, c'est un nom commun. J'avais envie d'aller ailleurs. Ma musique, je trouvais qu'elle se prêtait pas tant à une Catherine en tant que telle, étonnamment.
Okay.
J'avais envie de quelque chose de plus léger, atmosphérique, de plus doux à la prononciation. J'ai fait quelques recherches et quelques essais et il y a alors regagné.
Et comment il est né, ce nom-là?
J'ai fait des recherches.
J'ai trouvé un nom d'artiste.
C'est pas évident.
C'est pas évident.
Non,
c'est
pas évident.
Il y a les bandes qui doivent se casser l'antenne pour trouver des noms de bandes, puis tous les noms sont prêts.
Oui, vraiment. Puis il y a plusieurs...
Mais un nom de chanteuse, c'est pas facile.
Non, puis il y a plusieurs suggestions des fois qui sont pas bonnes, qu'on garde pas. Je pense que c'est pour utiliser un anglicisme, un brainstorming avec mon entourage, avec moi-même. En bout de ligne, j'ai cherché sur un vieux site, un site de vieux noms québécois.
OK.
J'ai trouvé Elia, j'ai trouvé Laure.
OK.
J'ai trouvé évidemment plusieurs autres possibilités, puis là, j'ai fait des essais-erreurs. J'ai testé, voir comment ça sonne, comment je me sentais aussi face à la prononciation du mot. Quand je suis tombée sur Elia Laure, pour aller dans le jeu de mots, il y avait Elia de Laure. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Ce que je fais est atmosphérique, c'est plus doux, c'est plus tranquille. Je trouvais que ça fitait. Après ça, c'est de se croiser les doigts que c'est bien apprécié. Puis jusqu'à présent, ça fonctionne. Puis je suis à l'aise. Je suis bien avec ce nom-là.
C'est pas ton premier album?
Non.
C'est ton deuxième?
Ouais.
Le premier n'était pas sous le nom d'Eliel.
Non. Le premier était sous le nom de Catherine. Et le premier était plus une carte de visite pour moi. Commencer à écrire, commencer à créer de la musique. C'était quelque chose de nouveau. J'étais plus dans l'interprétation auparavant. J'ai fait des collaborations aussi avec Ariane Vaillancourt, Frédéric Labrie, Cédric Soucy, sur ce EP-là qui s'appelait « Pantin sans voix ». Et ça m'a permis d'être acceptée à l'École nationale de la chanson à Granby, qui était un bon coup de pied dans le derrière, si je peux dire pour me lancer totalement dans l'écriture, la composition, en étant moi-même. Puis, au fur et à mesure, à l'école, on discute aussi de ça. Est-ce qu'on prend un nom d'artiste? Est-ce qu'on utilise son vrai nom? On se pose des questions. Après l'école, j'ai fait non. Je sors un nouvel album dans les prochaines années et je vais changer d'identité en tant que telle. Ça me donne un recul.
Qu'est-ce que ça a changé l'école de la chanson de Granby? Parce qu'on mène... tous les artistes qui sont venus ici, qui ont passé par cette école-là, me disent qu'ils ont mis leur vie en suspens pour se consacrer entièrement à ces études-là.
C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, puis c'est un 10 mois intensif où qu'on se fait brasser. Bien honnêtement, il y en a qui le reçoivent très bien, il y en a d'autres que ça se brasse un petit peu plus. On se fait brasser sur nos choix, sur notre écriture, notre style. On se fait... conseiller de changer un peu ou d'aller là. Mmh. Essayer du rock, du pop, changer d'avenue pour trouver finalement ce vers quoi on est destiné.
Oui, oui.
Puis c'est pas facile nécessairement de prendre 10 mois, d'arrêter complètement, de changer de ville. Dans mon cas, j'habitais pas Granby, d'aller emménager là-bas avec 10 autres ou 12 autres, je me rappelle plus, auteurs, compositeurs, interprètes que je connais pas. C'était quelque chose, mais en bout de ligne, vraiment très gratifiant et j'ai tellement appris. C'est ridicule comment j'ai appris sur moi, en premier lieu, sur mes compétences aussi. Des fois, on doute beaucoup. Je pense que c'est assez commun chez les artistes d'avoir des doutes sur ce qu'on fait. Puis là, on a la permission d'essayer, puis on n'est pas jugé. En fait, on est jugé, mais on est plus conseillé, discute par la suite. C'est vraiment formateur. J'ai adoré ça.
Et on essaie des choses qu'on n'aurait pas osé.
Ah, vraiment?
En temps normal.
Vraiment, que ce soit simplement le type de langage qu'on utilise. Mettons que je suis habituée de faire des images plus poétiques, peut-être que pour un exercice, je vais tester le joual ou je vais tester un langage plus familier, plus simple. Puis après ça, je vois, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, c'est quoi la réponse des autres auteurs, des professeurs qui sont là aussi pour nous guider. J'avais une belle brochette de profs aussi. À l'école, quand j'étais là, c'était Marie-Claire Séguin, puis Robert Léger. J'ai été gâtée. Je suis très, 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 très reconnaissante d'avoir été sélectionnée pour cette école-là. Puis je me sens chanceuse d'avoir pu faire cette année-là. C'est pour ça que ça a pris du temps, hein, entre le premier album, deuxième album. J'ai pu avoir la chance de grandir.
Mais pourtant, ça avait bien commencé pour toi avec les concours. Tu avais eu
ouais.
Une belle réponse de beaucoup de concours
ouais.
au Québec.
Ouais.
Tu aurais pu décider de continuer dans cette ligne-là?
J'aurais pu, mais il me manquait quelque chose. C'est le fun, les concours, parce qu'on a l'opportunité de présenter ce qu'on fait. On a l'opportunité de se faire juger par des professionnels.
C'est le fun et pas en même temps. Parce
oui,
que
c'est ça. C'est confrontant. C'est confrontant, c'est pas toujours rose, mais en même temps, on rencontre tellement de monde. Puis rencontrer les auteurs-compositeurs dans ces concours-là, ça me stimulait. Il me manquait après ça quelque chose. J'adore interpréter. J'adore ça. Je trouve que c'est un métier en soi. C'est difficile de bien mettre en valeur et surtout de s'approprier les chansons de d'autres artistes. Oui. Et j'ai fait ça pendant 10 ans, de l'interprétation. Et un moment donné, j'avais juste envie de dire, c'était qui, Catherine? Étais-tu vraiment là? C'était-tu sa voix? Il fallait-tu qu'elle s'en aille ailleurs? Il y a eu une remise en question avant l'école. Puis j'ai décidé de commencer voir. Puis là, t'écris un peu, puis t'es pas sûr. Puis tu te dis, ah, c'est pas si bon parce que t'es pas habile. Mm-hmm. Faut que tu développes ton langage, il faut que tu développes toute ton assiduité aussi à écrire. Puis c'est pas évident de se lever à tous les matins puis d'essayer d'écrire puis d'être confronté à c'est peut-être pas ce que t'as envie ce matin-là ou c'est peut-être pas bon. Mais en bout de ligne, d'avoir commencé ça et d'avoir rencontré ces auteurs-là qui m'ont poussé à le faire, c'est le parcours que je devais finalement faire. Et je suis contente d'avoir eu tous ces concours-là pour en arriver là. Tu sais, des fois, c'est long le parcours, mais en bout de ligne, on aboutit à quelque chose puis on se sent mieux. Comme là, je me sens bien.
Mais ça, on le voit avec le recul.
Oui.
Quand on est dedans, est-ce qu'il y a des bouts où on dit « Ah, finalement, on va faire autre chose. » C'est trop complexe, ce métier-là.
Je ne sais pas si je m'avance trop en disant que non. Je n'ai jamais eu vraiment de doute que c'était ça que je voulais faire. Je me rappelle qu'à 17 ans, quand venait le temps de choisir son cégep au secondaire, pour moi, il n'y avait pas de doute qu'il fallait que je m'en aille dans un cégep où il y avait de la musique, dans un programme de musique. C'était sûr qu'il fallait que je m'en aille en musique. On dirait que je le sentais. J'avais plein d'autres goûts au niveau académique, mais rien pour me stimuler au point de poursuivre des études. Puis je me rappelle d'avoir dit à ma prof de chant de l'époque, je pense que c'est ça que je vais faire. Puis je pense que je vais poursuivre, même si c'est dur, puis essayer de persévérer. Puis jusqu'à présent, tu sais, c'est pas évident, mais j'aime tellement ça que ça me donne toujours un peu de jus pour continuer. Fait que pourquoi pas? T'sais, en même temps, j'ai une vie qui me plaît. Je fais ce que j'aime dans plein de petites parcelles de la musique. Comme je travaille pour Torpille, j'enseigne aussi le chant à des plus jeunes. Je dirige un ensemble vocal. C'est tout dans la musique. Puis je m'épanouis à travers ça.
Dans ton travail chez Torpille, tu dois faire entrer ouais. des chansons dans les stations de radio. C'est le travail de Torpille, d'essayer de convaincre les stations ouais. de radio d'embarquer des chansons. Tu le sais que c'est pas facile, tu le vois.
Oui.
Tu vois des artistes pour qui c'est plus facile parce que le nom est là, parce qu'on suit ces artistes-là
oui,
depuis
exact.
Des années, puis ça devient presque un automatisme
oui, oui.
de les embarquer sur les ondes radio. Mais tu le vois aussi avec des artistes de la relève mm-hmm. que vous signez chez Torpille, c'est moins évident.
Ouais.
Quand toi, tu te lances dans ce métier-là et que t'as pleine conscience
ouais.
de ça, est-ce que ça atténue le rêve ou ça le rend plus réaliste, concret, je sais pas?
Ça l'atténue pas. Ça le rend plus rationnel.
Ouais.
Je pense que je deviens plus rationnel face à ça. Je sais un peu plus dans quel créneau je me situe et à quelle porte je vais devoir cogner pour arriver à développer une visibilité puis attirer l'attention pour le type musical que je fais.
Ça, donc, je mettre pense les que... bonnes énergies aux bonnes places. Finalement.
Exactement. Je pense que c'est ça que Torpille m'apporte. Évidemment, quand j'ai lancé ma propre musique, je ne l'ai pas lancée sous le nom de l'employée de Torpille, mais bien sous le nom de l'artiste. Donc, oh oui. personne n'était au courant. Et j'ai pu voir après ça, j'ai eu un feedback réel. J'ai eu un feedback réel de ce que le monde en pensait, du format que les stations pouvaient offrir, mettons, de la place dans les émissions un peu plus émergentes. Puis il y en a qui étaient très honnêtes, puis c'est OK, tu sais, le format convient pas, le format convient pas. Moi, en tant que telle, la musique, je la fais pour moi, pour me libérer un peu de ce besoin-là. Je la fais aussi pour les gens, pour qu'ils aient un univers différent à découvrir. Mais si je suis bien dans ce que je fais, j'ai pas encore le sentiment que ça l'atténue quoi que ce soit. Parce que je le sais, ce que je fais.
Est-ce qu'il y a des animateurs qui se sont excusés? Qui ont dit, écoute, Catherine, on travaille avec toi, on t'aime beaucoup, mais on peut pas jouer.
Ah oui! Oui, puis ils ne savaient pas. À la base, ils ne savaient même pas que c'était moi. C'est une fois que j'ai les réponses, après, je le mentionne juste pour... Parce que c'est sympathique de savoir qu'avec qui on travaille, ça fait de la musique.
Oh, oui.
Puis ils sont super gentils. Tout le monde est très gentil. La réponse est bonne. Puis je peux pas en vouloir aux gens de pas aimer ça. Tu sais, honnêtement, si les personnes font « Écoute, c'est moins mon genre », ben OK. Mais merci d'avoir pris le temps de l'écouter, par contre. Puis merci d'avoir pris le temps de me répondre. Puis de
aussi
me l'avoir dit.
Ouais,
parce qu'après ça, c'est sûr que là, si les gens prennent pas la peine, ne serait-ce que d'écouter ou d'être sincère, moi, là, ça peut biaiser un peu ce que j'essaie de faire par rapport à mon processus aussi pour ma carrière. Là.
L'écriture, c'est un peu une mise à nu.
Ouais.
C'est de coucher sur papier, en tout cas, des bouts qu'on vit ou des réflexions qu'on a sur la vie en général. Quand on est interprète et qu'on chante les mots des autres, on peut toujours dire que c'est pas nos mots.
Oui, c'est vrai.
Et que ça reflète pas tant une partie de notre vie. Quand c'est nos propres mots, est-ce que c'est vertigineux de se confier à des gens qui sont en avant nous qu'on connaît pas?
Oui. Ben, dans mon cas, je sais pour qui il y en a que c'est facile. Puis c'est ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin que ça soit clair et que les gens puissent se relier à cette chanson, se rallier à ce sujet-là, à cette chanson-là. Dans mon cas, mon écriture est un petit peu plus vague. Puis c'est volontaire. Un, parce que c'est comme ça que ça sort. Aussi parce que j'ai peut-être cette peur de vulnérabilité-là encore un petit peu trop. Je veux garder une certaine intimité pour moi. En même temps, je veux que la musique puisse avoir un sens très large, que chaque personne puisse s'identifier à sa manière. Mm-hmm. Je pense que c'est vertigineux. Ça serait vertigineux, en fait, si là, j'étais vraiment très, très, très biographique, claire comme de l'eau de roche, puis que je me sentais pas prête à le faire. Quand va venir le temps où que le sentiment de vulnérabilité est laissé aller, que je peux aller un peu plus creuser, il y a des chansons que je me permets. Sinon, je reste dans les images, on appelle ça métaphoriques. Chacun peut s'y faire son interprétation. Ça me plaît bien, ça. Puis quand j'interprétais, j'allais souvent chercher ce genre de chansons-là. Je pouvais me faire ma propre interprétation. Il n'y avait pas quelque chose de trop direct. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Oui, mais en même temps, quand on écrit et qu'on a et que c'est biographique, même les gens qui écoutent souvent en font leur propre interprétation,
c'est
qui
n'est
pas du tout la
c'est
même
vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Que celle de l'auteur.
C'est vrai, tu as raison là-dessus. C'est
donc
vrai.
Ça pourrait
ça
quand
pourrait.
Même être biographique.
Ça pourrait. Mais ce l'est, bien honnêtement, ce l'est à un certain degré. C'est juste que la situation n'est pas nécessairement claire. On ne peut pas nécessairement dire « Ah oui, il s'est passé ça dans sa vie, donc elle a écrit ça. » Ça, ça me plaît. Je veux garder cette intimité-là pour moi, mais ça me fait plaisir après ça d'aller le mettre sur papier pour moi, un exutoire, utilisons ce terme-là. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Quand c'est très biographique, ça peut aussi être interprété de différentes manières. Je pourrais peut-être voir à ça dans les futures écritures.
C'est un EP?
C'est un EP, 6 chansons.
Mais maintenant, on le sait plus vraiment, parce qu'il y a des EP de 3 chansons,
ouais.
Il y en a de 7, puis il y a des disques plus longs qui en ont 8.
C'est vrai. Je pense que le marché déjà du disque
a beaucoup changé, évidemment.
A beaucoup, beaucoup changé. C'est beaucoup moins coûteux de faire des EP, donc ouais, des mini-albums. Je pense qu'on peut le considérer comme un mini-album. Les EP, c'est 4-5. Moi, je l'intégrais avec le 6. Je pense que peut-être 7 à 10, c'est comme des mini-albums.
Donc, il en manquait
rien qu'une. Il en manquait juste une, j'aurais dit. Mais oui, c'est surtout une question qu'on veut aussi, la qualité.
Oui, quand j'ai, quand il faut que ça marche.
Il faut que ça fonctionne.
Il faut que ça crée un univers.
Si j'ai pas 10 chansons qui conviennent, je vais pas aller dans cette direction-là. Je préférais faire petit, mais bien faire les choses. Puis l'album a quand même pris un an et demi. Puis c'est quand même un long processus de créer quelque chose de physique. Fait que 6 pour moi, c'était parfait. Éventuellement, ça sera un album. Mais là, il faut que je développe mon répertoire encore. J'ai encore beaucoup à apprendre aussi dans mon écriture. Il faut que je développe encore plus mon style. On évolue constamment dans ce métier-là. Donc, de faire des petits EP, pour moi, c'est plus logique, surtout dans mon créneau. Je pense que dans la avec la musique que je fais, c'est quelque chose qui est doux pendant un certain moment, mais que je ne sais pas si pendant 15 ou 18 chansons, ça serait nécessairement pertinent. Je pense que c'est des petits moments qu'il faut que je crée, que j'offre, de différents univers, qui va faire un lien, puis un moment donné, ben, peut-être qu'il y aura un gros album de 12, 13 chansons, on ne sait pas.
Mais est-ce que ce lien-là est important encore? Parce qu'évidemment, maintenant, on ne consomme plus la musique de cette façon-là. Vrai. On installe ça sur nos appareils numériques et on écoute ça mélangé avec plein d'affaires. On peut passer de Yalor à Bruno Mars sans problème.
Ça serait drôle.
C'est bizarre, mais,
ça serait drôle.
Mais il y a ça. Il y a des gens qui passent du classique au jazz, au pop, à du hard rock sur le même appareil.
Totalement, totalement. Dans mon cas, c'était important. Je trouve que c'est le fun encore pour moi d'écouter un album et qu'il y ait quand même une suite un peu logique dans tout ça, que ça se tienne. Après ça, je sais que chaque chanson individuellement peut se retrouver, comme tu dis, un peu partout dans les iPods des gens. Puis c'est correct. Fait que je m'assurais quand même que chaque chanson...
ait sa propre vie.
Ait sa propre vie. Mais créativement parlant, pour l'artiste, je pense que c'est encore le fun d'avoir des albums. Il y en a qui aiment ça, des albums concept. Où il y a vraiment une histoire, puis les chansons s'enchaînent, puis s'emboîtent une dans l'autre. Je pense que c'est la création rendue là. C'est personnel à l'artiste, puis c'est... c'est
en même temps,
créatif.
Quand on est allé à l'école où c'est Romain Léger et Marie-Claire Séguin qui nous enseigne, c'était ça.
C'était ça,
c'est sûr.
Eux,
c'est ça qu'ils ont créé. C'était des univers complets.
Exact. Mais c'est encore... je ne sais pas si c'est utopique de penser ça, mais c'est encore le fun de se dire qu'on présente un univers complet à des gens puis on espère que les gens vont embarquer dans l'univers totalement. Un peu comme les albums d'Harmonium.
Oui, tout à fait.
C'était ça. C'était des albums concept que tu ne peux pas tant écouter. Tu peux. Mais c'est pas pertinent d'écouter une tune à la fois.
Non,
c'est de A à Z, puis tu vis un méchant beau moment.
Oui, oui. C'est Philippe Trudel-Chevalier qui a réalisé l'album.
Oui.
Pourquoi lui?
Bien honnêtement, parce qu'il a travaillé sur des projets autres que j'ai aimés. J'ai aimé son travail. J'aimais aussi sa personnalité. On s'entendait bien. Il a fait l'école aussi. Okay. C'est un auteur, compositeur, interprète et sa musique me rejoignait beaucoup. Okay. J'avais envie d'aller chercher quelque chose de plus atmosphérique, d'aller chercher des sons et je trouvais pas la personne idéale pour ça. Les personnes réalisateurs que je connaissais, c'était plus de la musique brute, très naturelle, plus folk. Moi, c'était pas dans cette direction-là. Donc, je suis allée cogner à sa porte. Puis, je suis bien contente, il a accepté. Puis, pour vrai, il a vraiment bien travaillé. Je suis tellement contente. Puis, j'ai eu la chance de participer à tout ça. Je n'étais pas co-réalisatrice. Je ne me donnerais pas ce crédit-là du tout. Mais j'assistais. Puis, je lui parlais. Puis, on communiquait beaucoup. Puis, je m'assurais vraiment que ce qu'il fait reflétait vraiment ce que je veux. Il a compris tout de suite mon univers, puis ça a bien fonctionné.
Mais en même temps, c'est le regard extérieur, le réalisateur. Donc, est-ce qu'il faut se laisser aller aussi dans ce qu'il propose?
Oui.
En même temps.
Oui. Moi, je...
parce qu'on arrive avec nos bébés, nos chansons qu'on a écrites, travaillées, qu'on entend d'une façon qu'on aime.
Ouais.
Et là, on laisse ça dans les mains d'un autre qui, lui, va dire « Moi, j'entends ça de cette façon-là. »
Oui, c'est pour ça que je voulais être présente. Je voulais assister. On a fait beaucoup de rencontres où on faisait du mix, on faisait du travail de réalisation ensemble. Je voulais entendre ses idées. C'était important pour moi parce que je ne suis pas une musicienne de formation en tant que telle. Je joue du piano pour composer ma musique. Mais après ça, je ne joue pas de bass. Donc, bien honnêtement, j'entends des choses, mais je ne suis pas nécessairement capable de le faire. Et peut-être que lui va m'apporter des encore meilleures idées pour amener ma musique encore plus loin.
Oui.
Puis je pense beaucoup que ce travail-là, ce partage-là créatif est important aussi du fait qu'il est auteur-compositeur. On dirait qu'il peut se rallier à tout le fonctionnement de créer un album. Ça fait des beaux moments, puis on a travaillé super bien pour ça.
Quand on reçoit l'album, c'est comment ce moment-là?
C'est stressant, parce que la boîte est fermée. Là, il faut que tu l'ouvres, puis que tu espères que tout va être bien sorti, puis que ça va être beau. Mais en même temps, c'est libérateur. Je pense qu'on vit tous une émotion là, quand on prend notre album pour la première fois. C'est dans nos mains, c'est tangible. On fait des albums pour avoir quelque chose de vrai et de tangible, pour que ça soit marqué un peu dans le temps, ce qu'on fait, dans notre métier.
Ouais,
c'est très émouvant. J'étais très contente. J'étais contente du résultat. Tout le monde a travaillé fort pour la pochette. C'était Antoine Proulx qui a fait le graphisme de cette pochette-là.
C'est magnifique.
Merci beaucoup. Puis j'étais super contente. Ça reflétait très bien ce que je voulais. Le petit côté mystérieux, justement, d'Élia Laure, qui est pas connu encore, qui veut juste se faire une petite place dans son créneau, puis aller chercher le cœur des gens petit à petit, aller faire des spectacles à travers le Québec.
C'est émouvant recevoir les disques, mais est-ce que c'est épeurant en même temps? Parce qu'à partir de maintenant, il ne nous appartient plus.
C'est une belle façon de le voir.
On veut que ça aille dans le cœur des gens.
C'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça.
Et ça va vivre en dehors de nous.
Ça
les
va
gens
vivre
qui vont l'écouter,
c'est vrai.
Tu seras pas là quand ils vont l'écouter.
C'est vrai, hein? Puis on verra pas le moment. Là, tu viens de me donner du stress. Non, mais...
Ils vont l'écouter, peu importe, dans l'auto, à la maison... Sur la
mais je pense que la crainte ou la petite peur vient surtout qu'on espère qu'il va se retrouver dans les mains
oui,
des gens.
Tout à fait. Oui, oui.
De mon côté, qu'est-ce que les gens en font par la suite? J'espère juste qu'ils vont l'écouter. C'est la première étape. J'espère juste qu'ils vont apprécier, qu'ils vont vivre un moment où ne serait-ce qu'ils vont découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas.
Oui.
Je ne dis pas que je fais quelque chose de différent, mais je pense que j'ai quand même un son unique à moi-même qui, ces temps-ci, ne se retrouve pas sur les ondes radiophoniques, ne se retrouve pas nécessairement dans les festivals ou sur scène pour le grand public. Donc, d'aller cogner à des petites portes puis d'essayer de faire mon chemin, si l'album peut se retrouver dans les mains des gens, ben advienne que pourra. Moi, je pense que ça me stresse pas tant. Je suis juste vraiment contente si ça se produit. Mais c'est une belle façon. Ben, c'est quand même... J'avais pas pensé à ça.
Il y a eu une campagne de sociofinancement pour ce projet-là, sur Indiegogo.
Ouais.
Quand les gens donnent des sous pour un projet qui nous est cher, comment on réagit à ça? C'est une méchante belle table dans le dos.
Et c'est un peu surréaliste. Parce que tu fais une campagne de sociofinancement parce que ça coûte cher, puis t'as pas nécessairement les sous pour le faire le coup, ou que t'as pas nécessairement l'expertise et la carrière derrière toi pour aller chercher une subvention. Moi, c'était plus à cause de ça. Et que des gens décident de t'encourager, c'est vraiment une belle tape dans le dos. Une marque de confiance aussi, de la part des gens que je sais pas trop ce que tu vas faire, la grande, mais... Je te fais confiance, ça va être bon, puis je vais être content après ça d'avoir participé à ça. Je pense que les personnes ont un sentiment d'appartenance au projet aussi.
Bien sûr.
C'est ça qu'on veut, les rallier à ça. C'est plus tant mon album, finalement. C'est l'album d'une cinquantaine de personnes qui ont décidé de donner de bon cœur pour le projet.
Il y a un ensemble vocal que tu as créé,
qui
s'appelle Le cœur à ses chansons. Comment c'est arrivé, ça?
Ah, c'est arrivé par le... plaisir immense que j'ai de faire des harmonies vocales. Dans mon album, d'ailleurs, la voix est présente. J'aime faire des arrangements. Je le faisais déjà pour le plaisir. En tant que professeur de chant dans une école de région, j'ai accès aussi à plusieurs jeunes chanteurs qui, des fois, ont envie de faire quelque chose en groupe. En 2015, j'ai dit, ben pour le spectacle de fin d'année, pourquoi pas rassembler des jeunes, créer un arrangement pour Noël, puis monter quelque chose. Ça partit de là. Ma patronne a décidé d'embarquer dans le projet aussi. Puis petit à petit, les adultes ont fait « Ben, moi aussi j'aimerais ça. Pourquoi tu montes pas un cours d'adultes? » Fait qu'on a commencé avec l'idée comme ça. Puis on était 7, là 8. L'année suivante, on était 17. Puis là, maintenant, on est rendu 30. Puis ça monte, ça monte. C'est tellement le fun. Pour vrai...
Et ça existait pas dans ton coin? Il y avait rien?
Il y en a. Non, il y en a, mais... je pense que c'est juste pas médiatisé nécessairement. Il n'y a pas de promotion reliée. C'est plus en région, c'est du bouche à oreille. Il y en a beaucoup, c'est des chorales d'église.
Ouais.
Fait que c'est plus classique. Mm-hmm. De plus en plus, les chorales pop sont demandées. On recherche le gospel, on recherche la vivacité musicale, de bouger un peu, de sortir la voix. Puis ça tombait bien parce que c'était le créneau que je voulais offrir. Les choristes ont choisi le nom, Le cœur à ses chansons, évidemment en hommage à une fameuse émission. Exactement, une fameuse émission qui est très drôle. Il y a beaucoup d'humour dans ce cœur-là. On est une belle famille, puis j'aurais pas pu demander mieux comme nouveau métier, parce que pour moi, c'est un métier de plus, être directeur, chef de cœur. Je fais mes arrangements, puis ça, c'est la partie la plus fun de s'installer chez moi, puis de créer. C'est de la création, C'est comme si je compose à chaque fois, mais avec les mots des autres. Là, finalement, je fais encore de l'interprétation à travers ça.
Puis... Est-ce que tu chantes avec eux ou tu fais que diriger?
Non, je fais que diriger. Okay. Dans les répétitions, je me gâte, je chante avec eux.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce que la chanteuse tape du pied?
Parce que la chanteuse.
Autres, quand tu fermes, ça
la scène, là. La chanteuse, elle tape du pied. Je pense qu'elle chante aussi en dirigeant. Mais ça leur donne du jus. C'est ce qu'ils me disent. Ils me disent chante, vas-y, laisse-toi aller. Ça me donne de l'énergie. Mais tant mieux, parce que la chanteuse est là, puis il y a de la misère à pas taper du pied. Surtout quand la musique est bonne puis que les harmonies sont bons, hein. C'est des amateurs, je tiens à le dire, ça reste un chœur amateur, mais ils chantent bien. Puis ils travaillent fort, puis les harmonies sont solides, puis je suis fière d'eux.
Et t'enseignes à des enfants?
Et j'enseigne enfants-adultes.
OK. C'est comment de travailler avec des enfants?
C'est différent. C'est différent. Moi, je suis habituée plus avec les adultes. J'ai un peu de torque quand j'enseigne. Les enfants me donnent... Pas... Pardon?
Avec les enfants, c'est...
On peut pas, c'est ça. Torque, exactement. Ouais. Avec les enfants, je te dirais que ça m'a permis de mieux exprimer la technique vocale parce que je reste une enseignante qui veut, malgré que c'est des enfants, leur montrer vraiment comment travailler avec leurs muscles, travailler leur technique. Pas juste, tu sais, bien honnêtement, je fais pas de la garderie. C'est pas viens chanter puis je vais te dire que t'es bonne. Je veux travailler avec eux, je veux les amener ailleurs, je veux développer leur voix.
Ça donne rien de toute façon de juste les vanter,
me sentirais pas bien. Je me sentirais pas bien dans ce rôle-là. Et les jeunes, ils sont conscients. Quand ils s'inscrivent, on a plusieurs professeurs qui ont différentes approches et la personne à la réception est rendue capable de dire « Ton enfant est de telle personnalité, je vais la placer avec tel prof. »
Ah oui, OK. Parce que ça pourrait ne pas marcher avec
certains
profs.
Oui. Puis nous, c'est notre mentalité. Si ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que...
Que tu n'es pas un bon
t'es
chanteur.
Pas exactement. C'est peut-être juste le prof qui n'a pas la bonne approche pour toi. Ça l'a adouci ça, puis ça m'a permis de mieux exprimer la technique vocale à des jeunes enfants de manière plus simple, plus concrète avec des images. Je leur donne des images d'animaux, puis je m'amuse. Puis en même temps, j'ai tellement de fun avec eux. Je te dirais que les plus jeunes, ils ont 8 ans, 7-8 ans.
OK.
Mais je ne vois pas en bas de ça.
Et les plus vieux?
Et les plus vieux, ah, j'ai un monsieur de 70 ans qui est venu prendre des cours, et c'était... l'homme le plus exceptionnel que j'ai rencontré de ma vie. 70 ans.
Est-ce que c'était le rêve de sa vie, par exemple, de chanter?
Ouais. Il faisait partie d'une chorale d'église, puis là, il avait envie d'être bon, d'être meilleur, tu sais. Il avait envie de s'améliorer, puis de mieux comprendre, puis c'était super formateur pour moi d'enseigner. Quand j'ai commencé à enseigner, soudainement, ma propre technique s'est améliorée en apprenant aux autres à travailler leur technique. Ça a été... ça fait quasiment 10 ans que j'enseigne. Et c'est vraiment un beau métier.
Les enfants veulent chanter ou ils veulent devenir des vedettes? Est-ce que tu as vu le mouvement changer avec, par exemple, la voix junior?
J'aime plus ou moins m'exprimer là-dessus parce que je le vois beaucoup. Puis ça n'enlève rien au plaisir qu'ils ont de participer à ce genre d'émissions-là. Puis à la découverte qu'on fait. Mais oui, les jeunes y croient que c'est l'avenue. Seule avenue. Tout à fait. Puis, je me suis même fait demander en tant que prof, « T'as-tu fait de la voix? » Puis, si je dis non, ils font «
Ah! » Ils prennent pas? Ouais. Ah ouais, OK.
Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, il y a même eu ça, parce que là, ils sont attachés à ces chanteurs-là.
Je comprends. C'est fait comme ça.
Exactement.
C'est ça le concept de l'émission. Ouais, ouais.
Puis, mon travail, après ça, c'est de leur faire voir plusieurs facettes, de leur faire comprendre que ça reste aussi une émission de télévision, que c'est bien le fun. Qu'en effet, il y a des personnes qui vont poursuivre. C'est sûr que la voix junior sont jeunes un petit peu là, pour tomber dans ce marché-là. Je pense qu'ils ont encore à poursuivre leur vie
avant
ça. Ça reste des enfants. Mais il faut calmer. Je te dirais que des enfants avec des grosses têtes, avec beaucoup d'ego.
Déjà?
Oui. J'en ai vu. Ouais. C'est vraiment pas généralisé, mais j'en ai vu. Je peux pas être honnête là-dessus. Là. Parce que même moi, ça m'a confrontée à ça. Il fallait que je pour utiliser un anglicisme « deal » avec des enfants qui me disent « ben j'ai pas vraiment besoin de cours de chant, je chante déjà bien. » C'est le genre de phrase qu'on peut
entendre. Alors
que
des artistes établis qui en suivent encore.
Exactement. Mais ça, c'est ça que souvent j'ai envie de leur répliquer.
Oui.
Même tes artistes préférés, Marie-Mé, Marc Dupré, Céline Dion, ils
prennent des cours de
chant. Encore des cours où ils sont encore en train de se former sur différentes facettes. Puis oui, tu chantes bien. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas à apprendre. Bref, le discours est là. Puis je te dirais que ça a un résultat. En bout de ligne, ça s'adoucit, puis ils comprennent.
Il faut
que je les fasse chanter. il faut qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils sentent qu'ils apprennent quelque chose. Puis c'est ma mission en tant que prof. Il faut qu'ils apprennent quelque chose. Je peux pas juste les faire chanter pour le plaisir.
Si les gens veulent te suivre, Facebook, j'imagine?
Facebook, c'est une façon rapide. Sinon, mon site internet, elialor.com. J'ai aussi un petit Instagram là, qui est un peu moins actif parce que j'aime vivre les moments sur le coup. J'oublie de prendre des photos. C'est terrible.
Mais c'est exactement ça qu'il faut faire dans la vie.
Je pense que c'est correct, là. Tu sais, je pense que j'ai une bonne attitude face à ça. Mais oui, Facebook.
C'est plus ça qu'on fait, mais c'est ça qu'il faudrait faire.
Je suis totalement d'accord. Facebook est lié à l'or.
Merci beaucoup d'avoir été
là. Merci, Luc.
Merci.